La traversée. La traversée de Lucien Bertolinat et Gilbert Racinat. Une émission sur les relations entre la France et l'Algérie depuis 1954. Avec aujourd'hui, Frédéric Voilet. Frédéric Voilet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été appelé sous les drapeaux en 1958 pour 32 mois. Donc je vais un peu rappeler, présenter en tous les cas votre situation lorsque vous arrivez en Algérie. Vous vivez alors à Londres, tandis que votre père, qui était pied noir, enseignait à la faculté d'Alger. Après une période de quelques mois, à l'OTAN notamment, vous êtes muté tout simplement dans le Djebel Amour, donc au sud-ouest de l'Algérie.
C'est très simple. Nous étions à Fontainebleau, nous étions plusieurs réunis, et l'adjudant avait plusieurs petits papiers dans son képi, dont une grande partie était pour un état-major, parce qu'à Fontainebleau, c'était la 46e QG, donc c'était une compagnie d'état-major. Mais malheureusement, dans ces papiers, il y en avait quelques-uns pour Aflou. Et moi, je suis tombé sur Aflou.
Aflou, donc le Djebel Amour.
Voilà.
Voilà. Alors, vous y arrivez comment ?
Alors, on est convoqué tel jour, telle heure à Paris. On prend un train militaire qui met 3 jours pour arriver à Marseille, parce qu'il descend par la rive ouest du Rhône. Toutes fenêtres bloquées. Chaque fois que le train s'arrête pour laisser passer un train de marchandises, des légionnaires en armes descendent et surveillent que personne ne descende du train. Et ce sont des légionnaires qui ne parlent pas un mot de français, ce sont de jeunes Allemands, de manière à ce qu'il n'y ait pas de compromission. Voilà.
C'est un voyage assez particulier. Mais alors, ce qui est de plus particulier, c'est que vous venez de Londres. À la fois l'Algérie, c'est quelque chose qui vous est tout de même familier, mais vous vivez en Angleterre. C'est un double choc.
Déjà, la France est une caserne française, enfin un camp, tel que celui de Montlhéry. Pour un étudiant anglais, je peux vous dire que c'est un très gros choc. Pas d'eau, pas de sanitaire, des rats énormes, pas de chauffage, pas de vitres aux cabanes, c'était des cabanes. On ne savait même pas où se situait la cantine, elle était à côté de l'anneau de vitesse de Montlhéry, donc on crevait de faim, quoi. C'était de l'autre côté. Et dans ces conditions-là, on a fait les classes. Quoi.
Et quand vous arrivez en Algérie, quelle situation trouvez-vous ? Donc, Djebel Amour directement.
Attendez, je ne suis pas encore en Algérie. Voilà. Je prends un bateau direction Oran, et ce bateau avait une turbine en panne. Donc, il avait un gîte d'à peu près 40 degrés. On entendait les chaudronniers qui tapaient un bruit d'enfer dans les machines. Et en cas de grain, il fallait pouvoir rejoindre un port. Et le bateau naviguait à même pas un kilomètre des côtes espagnoles. On voyait les gens sur les côtes espagnoles. Parce qu'il était tellement en travers, ce bateau, que le moindre coup de vent, il se renversait. Mais il ne fallait pas gaspiller le voyage. Donc on était tous dans la cale, mélangés. Des déserteurs attachés carrément, tête rasée, des Algériens, des recrues, parce que j'étais nommé en fait théoriquement maréchal des logis, mais pour faire les économies, l'armée française vous gardez en tant que brigadier chef jusqu'au débarquement. Parce que le sous-officier a droit à une cabine, théoriquement. Alors, pour ne pas avoir à débourser une cabine, l'armée française, vous gardez en tant que maréchal de logis jusqu'au moment où vous mettez le pied sur le sol à Oran. Après 3 jours de traversée aussi, 4 jours de traversée, parce que ce bateau allait très très doucement, vu qu'il avait des gros problèmes techniques, quoi. Et après, on prend le train jusqu'à Rolizane. Train qui a eu un petit problème parce qu'il y a eu une charge qui a explosé. À Rolizane, on prend un petit tortillard qui transporte en fait d'immenses tuyaux pour le gazoduc. Et ce petit tortillard va jusqu'à Tiaret. Et à Tiaret, on prend un convoi. À Tiaret, il fait un froid absolument incroyable. C'est polaire comme froid. Et on prend un convoi à travers les montagnes, par les pistes. D'abord, Géréville. Et puis ensuite, on arrive à Aflou, finalement, 1200 mètres d'altitude, dans une cuvette, dans le Djebel. Il y a donc double village. Il y a le village, disons, plus prospère, enfin qui avait été prospère, mais pendant la guerre d'Algérie, il était misérable aussi. Et au-delà de l'Oued, il y avait le village nègre, qui est le village des mesquines, le village pauvre. Et ensuite, nous avions formé un regroupement des nomades attachés au village et ceinturés par des fils de fer barbelés, pour les protéger en fait. Mais je peux vous dire que les incursions des ravitailleurs étaient très fréquentes. Hein. C'était protégé d'une manière théorique. Hein.
C'est-à-dire les incursions précisées?
Ben, moi, justement, j'étais très souvent chef de poste sur un petit piton et il y avait ce blocos en béton qui s'appelait Amiens, parce que chacun avait un nom de ville française, comme ça, et Amiens surplombait ce regroupement. Et quand j'étais de garde en chef, dans ce petit truc-là, j'entendais très souvent les chiens qui aboyaient, et je savais que c'était des... Alors, ma technique, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on ne va pas tirer. Il y a des gens qui dorment dans les tentes, dans les khaymas. Vous n'allez pas tirer. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas... Alors, il y avait d'autres techniques aussi. On pouvait appeler le PC Défense, qui était installé sur le minaret. Alors, eux, ils pouvaient vous envoyer un tir-mortier. Mais le tir-mortier, que vous allez faire quoi avec le regroupement là, vous ne pouvez pas tirer au mortier. Tant qu'on n'était pas attaqué directement dans le poste, moi, ma riposte personnelle, c'était toujours de tirer une grenade éclairante avec le fusil lance-grenade. Ça fait mal aux oreilles, mais enfin... Et quand elle marchait, parce que le matériel était quand même... très vétuste. La grenade éclairante, c'est un petit parachute qui descend avec une torche de magnésium et qui descend très lentement. Et on voit comme le jour. Vous voulez connaître ça. Et donc, tout de suite, ça calme les esprits. Quand on voit comme le jour, tout à coup, en pleine nuit, et ben, les gens qui doivent fichent le camp, ben, ils fichent le camp.
Il y a combien d'habitants à peu près là, des chiffres à peu près, que ce soit les militaires, la population, ça représente combien de monde tout ça?
À Flou, je pense que ça tournait autour de 2000, plus le bataillon du train à pied, plus au début il y avait c'était le 519e BTAP. Hein, c'était un.
Faut préciser là, oui.
Bataillon du train à pied, qui était un bataillon disciplinaire avec triple liseré sur les cuissons. Parce qu'on recevait pas mal de monde de Fresnes et de la santé. Et le 403 RA, régiment d'artillerie, au bout de quelques mois, bon, on a quand même vu que l'artillerie, ça ne sert strictement à rien dans le Djebel Amour, quoi. Alors, ils ont été remplacés par divers qui venaient des détachements, des tirailleurs, etc. Voilà. C'était ça.
Avec alors... La mission, quelle était-elle, à Flou? C'était de maintenir cette position.
Le problème d'Aflou, si vous regardez la carte, c'est que c'est quand même sur ce grand plateau qui est une contre-marche entre, disons, l'Atlas et le Sahara. Et c'était le passage obligé des troupes de l'ALN entraînées au Maroc, qui voulait rejoindre plus à l'est. Et donc, il passait automatiquement par le Djebel Amour, et notre secteur exact s'appelait la Gada, au cœur du Djebel Amour. Et donc ce bataillon se devait d'essayer d'intercepter ces bandes, d'une part, d'essayer de trouver sur la Gada et dans le Djebel toutes les caches d'armes qui étaient là, les caches de munitions, les caches de vivres, et il y en avait beaucoup, et également d'essayer de protéger la population civile des exactions. Mais malheureusement, pour ça, on n'était pas très efficace. À Aflou même, ça pouvait aller, mais dans les petits campements excentrés, malheureusement, je dois avouer qu'on a été très inefficace pour garder ces pauvres gens.
C'est-à-dire, ce sont des campements qui sont éloignés.
Assez éloigné d'Aflou, oui.
Et combien, monsieur, ça représente beaucoup de monde, ce sont des tribus qui vivent là.
Oui, des tribus qui ont été donc principalement regroupées par la suite, quand on a vu qu'il était impossible de les sécuriser, quoi. C'était une mission impossible. Et donc, on les a regroupées, et ça allait quand même mieux. Disons qu'on a regroupé les survivants, parce qu'il n'en restait plus beaucoup, les pauvres. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le Djebel Amour, ces gens-là? Ben, au départ, ils élevaient des moutons, mais les moutons ayant tous été massacrés, ils coupaient l'herbe alpha. L'herbe alpha étant la matière première pour les billets de banque, hein, qui poussent sur ces plateaux. Et ensuite, je ne sais pas où on a été chercher l'alpha, parce qu'il n'y a plus personne sur les plateaux.
Lorsque vous êtes arrivé à Aflou, vous avez une fonction précise, l'action psychologique.
Oui, ça c'est grâce un petit peu à mon camarade Pierre Boudot, qui est par la suite devenu prof de philo à la Sorbonne, qui avait 28 ans. Moi, j'en avais pas tout à fait 21, alors vous voyez, il y avait quand même un bel écart d'âge. Et lui avait déjà fondé à Aflou une structure remarquable d'aide sociale aux populations, une structure médicale et éducatrice. Et là, il m'a donc automatiquement, comme je l'avais à peine entrevu au camp de Montlhéry, mais en sachant que je devais le rejoindre à Aflou, il m'avait automatiquement incorporé à son petit service.
Lorsque vous arrivez là-bas, c'est en 58.
En 59.
À 59, à Aflou même. Donc la situation militaire a changé.
Elle était juste en train de changer. La veille de mon arrivée, toute la CCAS a été anéantie dans une embuscade. Il fait le tour des petits postes avec le tabac, etc., la solde. Et malheureusement pour eux, le chef de convoi n'a pas respecté les consignes qu'on apprend dans le train, c'est-à-dire qu'il faut en zone dangereuse un minimum de 80 mètres entre chaque camion. Parce que si le premier camion est bloqué, tout le monde bloque sur place et tout le monde saute du camion vite, 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 parce que le camion est une cible pour celui qui est sur la montagne avec une mitrailleuse. Hein. Malheureusement, la veille de mon arrivée, toute la compagnie des services a été anéantie, comme ça, par un manquement aux consignes, tout simplement. Vous voyez, ça va vite.
Votre contact avec la population, donc je voudrais insister là sur votre travail, sur ce qu'on a déjà dit, on a déjà parlé. Donc vous avez un contact étroit avec les gens, avec les Algériens.
Très, très étroit, oui. Très étroit, en ce sens que, là aussi, c'est Pierre Boudot qui avait ouvert la voie. Alors que les militaires, en principe, allaient par exemple au village nègre en armes, avec même une jeep mitrailleuse, etc. Nous, on allait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, seul, dans le village nègre. Et on connaissait toutes les familles, on était très bien reçus. Et du reste, j'avais la pleine confiance, d'une part, de la population, et d'autre part, je dois le dire, du commandant, hein, qui me donnait carte libre, hein, carte blanche.
Vous êtes habillé comment, dans ce cas-là ?
Je voulais porter une photo pour vous la montrer, justement. J'étais habillé, ça dépend. Si je revenais d'opération ou de la garde, j'étais habillé en treillis, en tenue de combat. Mais il faut vous dire tout de suite qu'à Afflou, 4 mois de l'année, on est bloqué par la neige. Et donc, il fait un froid de canard. Donc, vu la pauvreté du matériel de l'armée, on est habillé n'importe comment, je peux vous dire. Que quand vous voyez un rassemblement de soldats français, dont 60% au moins sont des FSNA, français de souche nord-africaine.
Des nord-africains, des Algériens, voilà.
Je peux vous dire que l'aspect, ça ne fait pas vraiment armé. Hein. Il y en a qui sont en djellaba, il y en a qui sont en képi, il y en a qui sont en béret, il y en a qui sont en calot. Vous voyez, il y a un peu de tout, quoi. Ensuite, je pense que c'est le plan Châle qui a essayé un petit peu de restructurer l'armée sur ce plan-là. Et on était censé avoir des tenues camouflées, comme le fait la gare du reste. Hein, donc, parce qu'on a énormément copié nos techniques sur celles des Félagas. Alors, je peux vous raconter, par exemple, qu'on n'avait pas ce matériel à Afflou. Alors, mon grand copain, le tailleur constantinois Jasda, faisait des casquettes avec des treillis usés, par exemple. Et moi, en tant qu'artiste, je peignais avec un pinceau et des couleurs, le camouflage sur les casquettes. Et c'est ça le matériel de l'armée française. Et j'ai appris récemment, par quelqu'un qui collectionne les uniformes, que ces casquettes peintes à la main ont une valeur extraordinaire de collection, justement. Alors, je vois que mes tableaux ne se vendent pas très bien, mais mes casquettes doivent se vendre très très bien. Oui.
Donc, jusqu'en 1958, c'est une armée française assez pauvre.
Et un peu sur la défensive, hein. Même beaucoup sur la défensive, je peux vous dire. Hein. Quand je suis arrivé à Afflou, non seulement les petits blocos de périphérie, mais le camp principal était harcelé presque toutes les nuits. Mais après, ça s'est quand même bien dégagé après. Hein.
Les combattants de la Hélène étaient nombreux autour ?
Il faut voir qu'il y avait, je pense, il y avait ceux qui étaient plus ou moins en permanence sur le Djebel Amour et qui aidaient au transit des autres, vous voyez ? Parce qu'il y avait des wilayas entières qui transitaient par le Djebel Amour vers l'est. Donc, vous avez donc double élément, si vous voulez. Vous avez les éléments locaux qui restent plus ou moins à demeure et qui connaissent le terrain et qui donc peuvent servir, comme pour le maquis français, si vous voulez, qui peuvent servir de relais pour les wilayas qui bougent vers l'est. Alors nous, évidemment, on avait des petits pipères qui survolaient les ouèdes et contre-cartes coupées à basse altitude pour surprendre, vous voyez. Parce qu'autrement, si on entend l'avion, on se planque, évidemment. Il n'y a pas grand-chose pour se planquer, mais il se planquait quand même, hein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Dieu bel amour, pour se planquer, ce n'est pas évident. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Ils arrivent donc, ils coupent le contact du pipère, le pilote, et il plane. Et hop, il arrive, tac, il photographie. Vous voyez ? Et ces vilayas migrantes, en fait, on essaie de les intercepter, mais c'était pas toujours facile, quoi. Si on n'a pas, malheureusement, une guerre comme la guerre d'Algérie, ça se résout à des renseignements, hein. Parce que c'était très montagneux, beaucoup d'ouèdes très encaissés, des grottes. Vous voyez, c'est magnifique, absolument superbe, hein, comme paysage.
Quand vous dites le renseignement, Parce que d'un côté, la France regroupe les populations.
Pour les protéger.
Je parle jusqu'en 58-59, un peu avant le plan Charles. Et par contre, la LN a la même mise sur les populations qui ne sont pas regroupées. Comment ça se passe entre la LN et les populations arabes ?
Très très mal.
Pourquoi ?
Ben parce que si une tribu ou un campement est soupçonné d'avoir collaboré avec les Français, tout le monde y passe. Hein. Double bouche. Hein. Ça se passe comme ça. Je peux vous dire par exemple qu'on avait nous comme auxiliaire de cuisine, on avait un malheureux qui s'appelait Méchoui. Vous savez ce que c'est qu'un Méchoui ? Parce que pour le punir d'avoir donné des renseignements peut-être aux Français, on l'avait fait cuire, Méchoui. Et ben on a réussi à le récupérer et l'antenne chirurgicale l'a sauvé.
Vous avez été en contact avec des membres de la LN ? Vous en avez vu ?
Absolument, oui, oui.
Qu'est-ce qu'ils disaient par rapport à ça ?
Ben, c'est-à-dire qu'il y avait double contact. Premièrement, il y avait les ralliés, parce qu'on avait des ralliés aussi dans les rangs. Vous pouvez partir à la garde sur un piton avec deux ex-AOS, deux ex-FLN, oui, et deux ivrognes. Oui. Bonne chance.
Oui, parce qu'il y avait ceux qui venaient de Fresnes.
Ceux qui venaient de Fresnes, oui. Bonne chance, mais c'était ça. Mais moi, j'ai jamais eu de problème, pas le moindre problème. Ça se passait très bien. Mais après, vous aviez les PAM, c'est pris des armes à la main, parce qu'il y avait les PIM, prisonniers internés militaires, qui étaient des malheureux, hein, des bergers ou des pauvres types qui avaient... Hein. Et les PAM qui étaient pris les armes à la main, ceux-là, c'était quand même c'était plus grave, ça. Ben, des fois, le commandant avait besoin d'un rapport sur, par exemple, l'état du moral de la LN. Alors là, c'était pas une question de renseignement. Moi, j'avais aucun rapport avec le deuxième bureau, moi, aucun rapport. Hein. Moi, j'étais... Aucun rapport. Donc, on me laissait seul avec deux ou trois types, là, et pour essayer de voir ce qu'ils disaient, mais... C'était mission impossible. Hein. Pourtant, je me débrouille un petit peu en arabe. Hein. Mais ils répondaient par slogan. Parce que la révolution a besoin de martyrs, des trucs comme ça. Quoi, oui. C'était des slogans tout faits. On avait inculqué ces braves gens avec des slogans. Hein. C'était pas. Il n'y a plus de pensée personnelle. Si vous voulez, dans un soldat de la LN, il n'y a pas une pensée. Un soldat de la LN. Entraîner en dehors des frontières. Bon, après, les locaux, comme je vous ai dit, ça, c'était autre chose.
Oui, alors, expliquez-moi. C'est-à-dire autre chose en quoi ?
Ben, parce que les locaux avaient encore des parents dans le village. Ils venaient les voir. Moi, je savais qui c'était, je connaissais tout, mais enfin, je disais rien, parce que moi, c'était pas mon rôle, hein, je n'étais pas en renseignement. Parce que, vous voyez, il y a toute une dimension que les gens ignorent, c'est la dimension tribale. Parce que nous, on avait deux tribus principales à Flou. On avait les Ben Elmoaz et les Nourdin. Vous voyez, Si Mohamed Nourdin, c'était une figure majestueuse. Il faisait 2 mètres de haut. Il était absolument superbe. Il est toujours sur sa jument blanche. Il est toujours sa gandoura immaculée. Absolument fantastique. Et j'étais très bien avec lui parce que... c'était Boudot qui m'avait repassé ça quand il était parce qu'il est parti il est reparti en France parce qu'il avait fini son service et il m'avait je sais pas pourquoi parce que j'étais trop jeune en fait il m'avait refilé son truc hein. et donc il se débrouillait à avoir en France des commandes de tapis les tapis du Djebel Amour. Et c'était principalement la famille de Si Mohamed Nourdin qui faisait ce tapis. Et moi, j'étais privilégié en ce que j'avais le droit de pénétrer dans l'appartement des femmes où elles faisaient le tapis. Parce qu'ils savaient que c'était moi qui commandais les tapis. Hein. Des tapis immenses. Alors ça, c'était merveilleux. Il y avait le humble, c'est-à-dire le métier à tisser. Le humble, c'est tout ce qui est vertical dans le tapis. C'est aussi la cloison à l'intérieur de Haïma. Hein. Et derrière le humble, il y avait un vieil homme qui indiquait les couleurs et les motifs avec les doigts par une mélopée. D'accord ? C'est une mélopée qui chantait. Et dans cette mélopée, vous aviez les motifs traditionnels du Djebel Amour. Et malheureusement, ce petit artisanat a cessé parce que les teinturiers d'Aflou étaient juifs. Je le connaissais bien. Et ils pratiquaient les teintures végétales depuis des siècles. Hein. Et vous avez des couleurs superbes. Et avec le bleu, je crois qu'il avait été un petit peu... Il était un peu chimique, le bleu, peut-être. Mais je sais que toutes les autres teintures étaient naturelles. Et je le connaissais bien. Ils avaient c'était somptueux, leurs couleurs. Hein. C'était superbe. Ils avaient des chaudrons. Et ils faisaient bouillir cette teinture et la laine. Il y avait des grosses boules de laine suspendues comme ça. Et quand ils ont dû partir, quitter l'Algérie, de toute façon, les couleurs, les secrets des couleurs naturelles sont partis aussi. Hein. Donc je ne vois pas comment on a pu contenir le tapis dans sa vérité.
Il y a donc eu une destruction de toute l'économie, en fait. Que ce soit l'économie pastorale, vous disiez tout à l'heure les moutons, l'artisanat. Donc c'est une population qui a dû être terriblement fragilisée autour du campement, autour d'Aflou.
Un des rôles de notre structure avec Boudot, c'était d'alimenter les plus démunis. Et je peux vous dire, par exemple, que en 60, pour l'Aïd, j'ai été voir le commandant, Leba, pour dire son nom, Leba, et je lui dis, mon commandant, il n'y a plus de moutons pour l'Aïd. Hein, et il en faudrait un par quartier, parce que je connaissais tous les chefs de quartier, etc. Je connaissais tout le monde. Hein. Il m'a dit, regarde, tu prends du fric, tu prends un camion, et tu montes à Tiaret et tu achètes des moutons, un par quartier. Et j'ai pu obtenir un mouton par quartier d'Aflou pour l'Aïd.
Après 58, plutôt à partir de 59, c'est le plan Châle. Et là, la situation va changer. Est-ce que vous ressentez ce changement à Aflou?
Moi, j'allais assez peu en opération. J'y allais quand même, mais quand j'allais, c'était en chef de PSFM en protection du PC. Donc j'étais, sauf quand les T6 nous tiraient dessus, ce qui arrivait assez fréquemment, j'étais relativement protégé. Ceci dit, on voyait que déjà les harcèlements avaient plus ou moins cessé, pas entièrement. Et les opérations se faisaient beaucoup plus fructueuses parce qu'il y avait deux compagnies de combat au BTAP. Et je peux vous dire que on entendait un tiraillement, on entendait ça engageait beaucoup plus souvent. Hein. Mais au niveau. Au niveau de mon travail, ça a massivement changé parce que quand Boudot a créé sa structure sociale et éducative, il a fait ça un petit peu contre le pouvoir militaire. C'était vraiment arracher des concessions une à une aux officiers et au commandement.
Pourquoi préciser là?
Parce qu'on était considérés un peu comme des traîtres. Les, 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 les militaires de carrière voyaient ça très mal, que nous allions tous les jours dans le village nègre, comme ça, qu'on connaissait, qu'on côtoyait tout le monde, alors qu'eux risquaient leur vie, etc., pour combattre, etc. Ils voyaient ça très mal, on était très mal vus. Ceci dit, Boudot avait beaucoup d'autorité personnelle et il a réussi à imposer son idée avec l'aide du commandant de l'époque, commandant Descendre. Mais à partir du moment qui accompagnait le plan Châle, on a vu une espèce de retour à la tradition Second Empire. L'armée d'Algérie du Second Empire, c'est-à-dire que les officiers étaient devenus, ils avaient pris leur rôle, disons, Jules Ferry, et ils étaient là pour apporter, je ne dirais pas la civilisation française, ça ferait ringard, mais pour pacifier, pour éduquer, pour écouter. Et donc, notre petite structure, elle est devenue quelque chose de... Elle est devenue le modèle. Et alors, presque du jour au lendemain, on est passé de quelque chose de clandestin, semi-clandestin, à... On est passé devant les projecteurs, littéralement. On venait filmer notre action, on avait créé des classes. Parce qu'à Flou, il y avait une école pour des centaines de gosses. Hein. Donc, on avait créé des classes dans tous les quartiers défavorisés. Il y avait des gosses, je me rappelle de certains, absolument brillants. Hein, brillants. Et donc, on avait des gens qui... Alors, j'avais créé un foyer féminin, avec une assistante sociale qui s'appelait Layani, qui était originaire d'Aflou, donc elle était bien connue, c'est une juive d'Aflou. Ça a été filmé, et on avait des officiers supérieurs qui venaient nous regarder travailler sur le terrain, dans le village, pour voir comment on faisait.
Comment vous ressentiez ça, vous ? Vous aviez l'impression que vous faisiez une œuvre positive, que...
Ben moi, vous savez... Non, vers la fin, fin 60, début 61, il y avait eu les référendums et tout ça. Vous savez que là-bas, quand vous avez le référendum, il fallait faire voter les populations. Attendez, ça, si je vous a pas, il faut que je vous raconte comment on fait voter les populations. Parce que vous avez quand même des gens dans les montagnes qui n'avaient jamais vu un Français. D'accord ? Alors, faire voter les populations sur un truc qui leur est tellement étranger, tellement lointain. C'est un petit peu insensé. Alors, on a imaginé un système, c'est pas moi qui l'imaginais. Hein. Ça, c'est loufoque. Hein. On les regroupait pour la journée, plus ou moins, enfin, hein, pour la journée du vote, hein, avec beaucoup d'armement autour, beaucoup pour pas que ce soit... Hein. On les regroupait... C'était grotesque. Hein. Et on les séparait en groupes de 20, et c'était des groupes de 20 oui. Voilà, c'est tout. Voilà. 20 oui, 20 oui, 20 oui.
Mais vous aviez un sentiment venu de Londres. Cette pacification, ce Second Empire, ça voulait dire quoi, en fin de compte ?
Pour moi, c'était beaucoup, beaucoup trop tard. Mais... ceci dit, je ne jette pas la pierre à la France, parce que la France, comparée à l'Angleterre, par exemple, j'ai fait beaucoup d'histoire, d'études d'histoire, a massivement investi dans ses colonies. Je vois à Alger, quand je faisais, parce que le 32e mois, c'était la Libérable, hein, que j'ai passé à Alger. On construisait encore un hôpital neuf, encore une bibliothèque universitaire, vous vous rendez compte ? En 61, on a quand même investi. On avait investi alors que les Anglais, ils ne faisaient pas ça de la même façon. Hein. Les Anglais, investissement minimum hein, dans leur colonie, dans leur truc. Hein. Alors que la plupart des pieds noirs, quand ils sont rentrés en France, ont été tout à fait surpris de voir qu'ils avaient eu des structures plus modernes en Algérie et qu'ils vivaient de manière plus moderne en Algérie qu'en métropole. Ils avaient des hôpitaux plus modernes, ils avaient des frigos dans la maison, alors que je peux vous dire qu'ils avaient des salles de bain. Hein, alors qu'ils sont rentrés en France, ils ont vu un pays sous-développé par rapport à la plupart, je ne dis pas les blancs pauvres, mais je dis la plupart des pays noirs avaient quand même accès à des choses qui semblaient encore extraordinaires dans les campagnes françaises.
Mais la population algérienne, elle, est-ce qu'elle a changé de point de vue? Est-ce que vous avez senti des changements? Je parle des gens avec qui vous étiez dans un flou.
Mais moi, quand j'ai senti que les choses pouvaient virer, j'allais vraiment très doucement, pour ne pas compromettre les gens. Voyez. Moi, personnellement, je n'étais pas quelqu'un de compromettant. Mais j'entraînais peut-être d'autres qui auraient pu être compromettants. Voyez. Moi, personnellement, je pense que j'étais au-delà de pouvoir compromettre quelqu'un. J'étais au-delà de tout soupçon, si vous voulez. Mes visites se faisaient pas forcément moins fréquentes, mais différentes dans le village nègre, par exemple, voyez, dans les familles. Je demandais beaucoup moins de choses. Je demandais rien, surtout. Aucune question. Je donnais de l'aide, ceux qui n'arrivaient pas à manger, etc. etc. Je jouais ça vraiment à l'oreille, hein, parce qu'il ne fallait pas que les gens se sentent... Ils sentaient la bascule qui arrivait, et il ne fallait pas qu'ils se sentent compromis avec la France. L'exemple le plus tragique de ça, hein, il y a un exemple absolument tragique, on avait fait un genre de foyer de jeunes qu'on avait bâti nous-mêmes, hein, sur un pré. On m'avait donné des prisonniers pour bâtir ce foyer de jeunes. On était deux ou trois Français, des prisonniers qui adoraient sortir de prison, hein, pour venir travailler avec nous. Ils adoraient ça, hein, parce qu'ils avaient du café à volonté, du machin. Etc. Ils demandaient que ça. Hein. On a construit ce foyer de jeunes. Alors, il y avait quelques jeunes, là, quelques adolescents qui gravitaient autour de moi. Mais je savais que le jour où je partais, ces gosses seraient obligés de rejoindre le maquis. Et je savais que des gosses de 18 ans, sans aucun entraînement militaire dans le maquis, fin 60, début 61, quand je suis parti, c'était déjà le cas, c'était de la chasse à l'homme, c'était plus de l'opération, hein, dans le Djebel.
Alors expliquez ça, la chasse à l'homme de la part de l'armée française.
De la part de l'armée française, il y avait des éléments de la Légion. Il y avait les éléments des tirailleurs, parce que les tirailleurs étaient toujours en première ligne, les tirailleurs. Pourtant, la plupart étaient des Algériens. Mais tu restes, l'unité qui a fait le fameux coup de la rue d'Isli, là, c'était des tirailleurs. Hein. Et ils venaient du Djebel, les types. Ils venaient de se taper une opération de 15 jours, les types. Hein. Donc, ils tenaient pas debout de fatigue, moi, je connais ça. Hein. Et les quelques éléments de l'ALN restants, ben, ils étaient mis en pièces. Mais les anciens s'en tiraient toujours. Vous savez, c'est comme un peu les grenières de Napoléon, quoi. Hein. Mais je savais que ces gosses, première opération de nettoyage, hein, on faisait des opérations de nettoyage, hein, mais j'étais plus là, hein, heureusement, hein, mais on me l'a écrit. Un de mes camarades resté à Flou me l'a écrit. Je connaissais tous ces gosses. J'ai encore des photos, hein, dédicacées derrière de ces gosses. Hein. Je savais qu'ils seraient mis en pièces. Aucune chance. Comment voulez-vous qu'un gosse de 18 ans qui n'a pas d'entraînement militaire, qui ne connaît pas la montagne, comment voulez-vous qu'il résiste dans le Djebel face à la Légion, attendez. Et ça, c'était tragique, ça. Je savais que le jour où je partais, ils étaient morts, quoi. Je savais. Mais je pouvais rien y faire. Hein. Mais ils ne voulaient pas que je m'en aille, attention. Hein.
Oui, racontez-nous comment vous êtes parti. Voilà,
déjà, on est parti avec du retard, parce que la piste moitié bouchée, un coup c'est la neige, un coup c'est le sable, un coup c'est... Il fallait attendre un convoi de la gendarmerie mobile, etc. Et... Parce qu'il fallait attendre que la relève arrive. Oui. Et il y avait des gens que je connaissais qui étaient en travers devant le camion où j'étais. Ne pars pas, sergent, ne nous laisse pas. Si tu nous laisses, on est foutus. Ils étaient foutus, du reste. Ils étaient foutus.
C'est-à-dire ?
Parce que cette espèce de prise en tenaille entre les Français et la LN, et les éléments LN infiltrés dans le village, j'arrivais peut-être à la rendre supportable, quoi. Voilà, c'est tout. Je dis ça sans aucun... c'est pas un mérite que j'ai. C'est Boudot qui m'a fait le chemin. Hein. Et j'arrive peut-être à le rendre un peu plus supportable, c'est tout.
Mais c'est une guerre qui est passée au-dessus des têtes, au-dessus de la tête des gens.
En fait. Alors complètement, on ne comprenait pas tout ce qui leur arrivait, les pauvres. Hein. Puis je vous dis, j'avais ouvert la parenthèse tribale. Hein. Alors il y a une rivalité extraordinaire entre les Nourdines, qui étaient des Arabes pur sang. Hein. Et les Benelmoises, qui je pense, je ne sais pas, mais par le nom, il y a un côté ottoman peut-être, je ne sais pas. Mais là, il faudrait faire l'historique. Quoi, ça a été fait par les Pères Blancs et tout. Alors, si vous avez vous étiez en opération avec la Harka, parce qu'on avait la Harka là, à cheval, hein. La plupart du temps, ils étaient à pied, mais enfin, il y avait à cheval. Vous avez la Harka Nourdine et vous rencontrez un groupe suspect Nourdine, mais un groupe suspect, pour ne pas dire un groupe de l'autre côté, quoi. Eh bien, ils s'embrassaient, c'était des cousins. Par contre, si vous étiez avec la Harka Benelmoise et vous rencontrez un campement Nourdine, il fallait vite, vite, vite les empêcher de tout foutre en l'air, de tout brûler, de violer les bonnes femmes, etc. Quoi.
C'est-à-dire que pendant la guerre d'Algérie, il y a toujours des guerres tribales, toujours ces
rivalités. Absolument, ouais. Ça, il fallait faire très attention à ça. Hein. C'était un gars qui arrivait de France, là-dedans, ben, attendez, il faisait des erreurs gigantesques. Non seulement de par sa propre peur, par exemple, ne serait-ce que sur un piton, si un type un peu nerveux, il entend bouger dans le regroupement, qu'il voit des gens qui courent, parce qu'il y avait des ravitailleurs, ils couraient, on les voyait courir. Mais s'il ouvrait le feu, vous voyez un peu la catastrophe dans un groupement, attendez.
Et ces tribus se rallier à un camp ou à un autre selon leurs propres intérêts.
Sur leur allégeance ancienne, beaucoup plus ancienne.
C'est-à-dire
qui n'ont pas grand-chose à voir. Il y avait une tradition avec certaines tribus d'être pro-français. Oui. Mais tradition très ancienne. Parce que les Français avaient favorisé tel ou tel Bachaga, etc. Vous voyez. Là, il faut remonter au moins jusqu'à l'armée de Napoléon III. Parce que, comme vous savez, l'armée de Napoléon III, son grand mérite, si on veut, sa grande mission, c'est d'avoir été un rempart entre les colons et la population. Alors, parce que les colons, issus de l'Europe du Sud, pauvres à l'époque, misérables même, sud de l'Espagne, Calabre, etc., Sicile, Malte, repousser pour avoir les bonnes terres, repousser toujours les populations sur les montagnes arides. Vous savez, c'est un peu ce qui se passait aux États-Unis, quoi, avec les Indiens, quoi. À chaque fois, on leur repiquait un morceau, quoi. Et l'armée de Napoléon III a mis le holà. Et donc, elle s'était fait des alliés, quand même.
Et du coup, la LN, mais quel jeu joue la LN dans ce cas-là? Ils savent ça, les gens de la LN.
La LN, vous savez, il faut saboter tout ce qui a l'air de marcher. Automatiquement. Il faut, et c'est une œuvre de destruction qu'il faut faire. Quand ça, au contraire, il faut aller d'autant plus fort là où ça a l'air de marcher pas mal.
Est-ce qu'il y avait un travail politique fait par la LN?
Ah oui, bien sûr, oui, un travail politique. Mais je peux vous dire qu'au niveau d'Afflou, ça marchait très mal. Hein, parce que, vu le, la plupart des gens d'Afflou n'avaient jamais quitté Afflou. Ils connaissaient un peu le Djebel Amour parce qu'ils étaient issus de tribus diverses. Mais très peu étaient allés jusqu'à Tiaret. Nous, ce qu'on avait fait une fois, c'était pas mon idée, ça. Boudou était déjà parti, là. On avait pris des gosses, on avait mis les gosses, des petits gosses, c'était 10 ans, quoi. On avait mis ces gosses dans des... dans les camions de la gendarmerie, et on les avait mis au bord de mer, à Port-aux-Poules, à côté du port d'Arzeux, là où ils font le... là où le gazoduc... où là, le gaz est liquéfié pour partir en bateau. Et ces gosses, c'était un truc absolument incroyable pour eux, quoi. On est compte. Djebel Amour au bord de mer, quoi. On avait fait faire un voyage, une colonie de vacances pour les gosses d'Afflou, quoi. Vous voyez, c'était une genre d'idée. Parce qu'on avait des crédits à la fin. C'est, vous voyez, le truc loufoque, quoi. Alors qu'on avait, à partir du moment où ça a changé, quoi, l'armée a changé de rôle, et nous, on avait des crédits, donc... qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait un foyer pour les jeunes, on va faire une, les plus démunis, les plus... Vous savez, à Flou, il faisait moins 15 des fois. Hein. Ces gosses étaient pieds nus. Hein. Les plus démunis, on dit, bon, au printemps, on les amène au bord de mer.
Vous partez à quelle date, exactement?
Pour le...
Oui, vous quittez ce truc de,
pour ce bord de mer, là.
Non, mais... vous quittez à quelle date, à Flou?
Moi, c'était au printemps 61. Et après, j'ai passé un mois à Alger, quoi, libérable.
On a juste après le référendum sur l'autodétermination, c'est ça?
Ouais, moi je m'en souviens de ce référendum. Il y avait un silence de mort, là, vous voyez, entendez les postes, les transistors qui résonnaient dans tout le campement, là.
Je m'en souviens. Silence de mort.
Parce que tout le monde écoutait ce truc-là.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc, on a un petit peu fait. Vous voyez qu'il y avait. Un travail très positif de fait, quand même. Je crois qu'il y a eu des choses épouvantables. Mais là, il y avait. Je pense qu'il y a, aussi dans ce petit chapitre.
Un microcosme, un peu.
Il y a un microcosme, mais qui fait plutôt partie, enfin, de la guerre aussi. C'est la guerre en fond, mais c'est une espèce d'histoire d'amour là avec l'Algérie là, que la France mène avec l'Algérie là. C'est un amour assez violent, mais enfin, là, je peux vous dire qu'il était réciproque jusqu'à un certain point quand même. Hein, parce que j'ai...
Ça fait écho avec ce qui se passe aujourd'hui pour vous.
Il faut espérer quand même, il faut espérer. Parce que je connais encore beaucoup d'Algériens, beaucoup de Maghrébins. Il y en a qui ont une vue terriblement négative de tout ce qui s'est passé sous le régime français, etc. quoi. Mais il y a des choses très négatives, c'est certain. Mais il y a aussi des choses, je pense, positives. Hein. Il y a eu des efforts gigantesques, de fait. Hein, ça. Au niveau d'Afflou, c'était pas gigantesque. Mais enfin, nous, on a fait ce qu'on a pu pour alléger le sort quotidien des gens. Voilà ce qu'on a fait. Voilà.
Patrick Voilet, je vous remercie.
Bonne soirée. J'ai encore beaucoup de choses à dire.
C'était La Traversée, une série radiophonique de Lucien Bertolina et Gilbert Racina. Nous nous retrouverons le dimanche 17 décembre à 20h sur les 3-8 de la Grenouille pour une prochaine émission. Bonsoir.